C'est toujours le mag sur Maximum jusque midi. On entame maintenant, c'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça, notre séquence hebdomadaire. Christian Quino nous présente chaque dimanche des bonnes nouvelles dans le monde des entreprises de la région. Christian, je te laisse nous présenter tes invités du jour.
C'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça.
Un grand merci Élise, comme chaque dimanche, milieu de matinée, je suis très très heureux de vous retrouver avec mes invités et sans mon cher Guy Van den Orgueth, malheureusement, qui est retenu par le train sans lance parce que l'opération des gazelles assez importante. Donc mon cher Guy, je sais que tu nous écoutes, on te retrouvera dimanche prochain. Eh bien voilà, on a des bonnes nouvelles et on va même essayer de faire force au maximum. Je vous assure qu'on va essayer de donner le sourire du côté gauche. J'ai la chance de recevoir le directeur du foyer des orphelins de Liège, monsieur Julien Etienne. Bonjour.
Bonjour.
Sur ma droite, il va démarrer parce que vous savez, c'est presque une tradition tous les 15 jours. Marc Carnéval, bonjour.
Bonjour.
C'est le gérant de quoi ? Ben vous le savez tous, Sabot d'Hélène de Liège. Alors on a une chronique. Une année, un vin, une histoire. On est en 1921. Ça nous relance loin derrière. Comme savoir qu'en 1923, je dis tout de suite, la société belge de radiodiffusion fonde la première station de radio du pays qui s'est appelée Radio Belgique. Et ça, je trouve que c'est déjà un nom que j'aime beaucoup parce que c'est un nom, c'est de l'unité. 1921, mon cher Marc, c'est à toi.
Alors, on va parler de Dom Pérignon. Alors, une légende dit que Dom Pérignon est parti en pèlerinage à Limoux. Et là, il va tomber sur la méthode effervescente. Il se dit génial et il va partir donc à Auvilliers, dans sa propriété à Épernay. Et il veut utiliser cette méthode pour faire le champagne. À l'époque, vous devez savoir qu'on faisait du vin tranquille. Le rouge s'appelait le vin de rivière et le blanc s'appelait œil de perdrix. Et alors, il va malgré tout, parce que ce gars ne connaît pas vraiment les méthodes, il va devenir peut-être le premier œnologue. Il va d'abord décider qu'on va mettre dans ce champagne des cuves différentes. C'était assez fastoche pour lui, puisque c'est un moine, ils avaient droit à une dîme, à une contribution, donc ils avaient les raisins de la région. Et ce gars veut être le seul à pouvoir goûter ce raisin. Donc il faisait étaler le raisin devant sa chambre, donc à l'air libre, et le lendemain, il le goûtait, si tu veux, quand il était à jeun. Il va être aussi le premier à utiliser le bouchon de Liège. Alors c'est marrant parce qu'il mettait des petites ficelles, tu vois, pour tenir le bouchon, que les rats s'amusaient déjà à bouffer. Donc il a dû mettre après un truc métallique. Il va faire épaissir le verre, parce que les bouteilles avaient quand même tendance à exploser. Et c'est marrant, il va être vite baptisé, tu sais, c'est des moines quand même, hein, le vin du diable, puisque les bouteilles explosaient. Et alors, plus marrant, on l'appelait aussi le saut de bouchon. J'aime mieux ça. Alors, pourquoi je choisis 1921 ? Parce que c'est la première fois que le nom Dom Pérignon va, si vous voulez, être sur une bouteille. Donc, le gars, il crée plus ou moins le champagne en 1660 et Meut et Chandon va racheter le nom et la petite parcelle de Auvilliers. Ce qui est très drôle d'ailleurs, c'est que cette parcelle-là ne rentre pas dans la composition de Meut et Chandon. Donc, la parcelle qui appartient à Dom Pérignon ne rentre pas dans la composition de Dom Pérignon. Alors, 1921 va sortir en 1935, puisque c'est les maîtres de chez qui décident quand le champagne sort. Et là, ils vont vendre 300 bouteilles aux Anglais. Succès immédiat, les Américains vont en commander 100 caisses. Le très milliardaire Duke va d'ailleurs en acheter, lui, rien que pour lui, 100 bouteilles. 17 de ces bouteilles, d'ailleurs, vont se retrouver chez Sylvie en vente en 2004. Les héritiers vont remettre, puisque vous devez savoir que 21, toujours actuellement, c'est le champagne, la meilleure millésime de tous les temps. Il n'y a jamais eu un champagne aussi bon, toujours maintenant. On n'a fait que 43 millésimes depuis 1921, parce qu'ils ne le sortent que quand l'année est exceptionnelle. Alors, il y a des petits trucs qui sont assez marrants aussi. Vous devez savoir que Ian Fleming, dans Moonraker en 1955, va faire boire, il est fort d'ailleurs, Dom Pérignon 46 à James Bond. Le 46 n'a pas été produit. Donc vous voyez, donc, petite erreur de M. Bond. C'est le champagne préféré de Marilyn Monroe. Je peux vous dire qu'elle s'étale partout avec une coupe. Donc cette nana a fait vraiment une très grande pub pour ce grand breuvage. Alors il y a une chose aussi qui est très marrant à savoir, c'est quand vous voyez sur un champagne un millésime, donc 95, 2000, c'est tout à fait normal, mais il faut que toutes les cuves, puisque c'est un mélange de cuves, soient du millésime 1995. Alors, à l'époque, on disait que le 1921 avait des arômes de santal, de praline, de vanille. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 1921? Pas 23.
Ah, mais 21. Je suis,
d'accord. Alors, Mouret Caruso, peut-être le plus grand chanteur de tous les temps. Fedo, lui aussi, toujours maintenant, on joue ses pièces. Naissait Yves Montand et Simone Signoret et Dario Moreno. On allait voir pour la première fois le mot robot dans un livre de science-fiction. C'est Karel Čapek qui va utiliser pour la première fois le mot robot. L'insuline va sortir en 1921. Au cinéma va se jouer Le Kid de Charlie Chaplin. Notre ami Maurice Chevalier va nous chanter « Dans la vie, faut pas s'en faire » en 21. Et alors, un truc qui est assez marrant, c'est que c'était la naissance du fromage de la vache qui rit en 1921. Je trouve ça assez drôle. Alors, et il y a eu aussi le vaccin contre la tuberculose. Alors, ce qu'on peut encore dire aussi, c'est que tous les maîtres de chais en Champagne ont une base. Ils ont comparé les raisins à une fille. Donc, ils disent que le chardonnay, c'est le corps, parce qu'il faut beaucoup de chardonnay, que le pinot noir, c'est les habits, et que le pinot meunier, c'est les bijoux. Donc, on en met très peu. Donc, je pense avoir été assez complet sur le champagne.
Mais c'est bien, parce que l'année prochaine, on va fêter le siècle de cela. Ça va être terrible, ça.
Eh oui.
Eh, tout à fait. Bravo. Écoutez, mon cher Marc, un énorme merci. En plus, il est dans les temps. Marc Carnéval, Sabot d'Hélène, la séquence Une année, un vin, ou plutôt un champagne aujourd'hui, une histoire. Et quelle histoire! Eh bien, justement, on est déjà à la première pause musicale. On se retrouve avec Monsieur Julien Etienne juste après. À tout à l'heure.
C'est une bonne nouvelle. C'est déjà ça.
Deuxième séquence après Marc Carnéval. Julien Etienne est avec nous, directeur du Foyer des Orphelins. On parlait de 1921 et toi, tu réagissais tout à l'heure.
Mais oui, 1921, c'est aussi l'année de création du statut des ASBL qui existe encore aujourd'hui. Donc le foyer a été créé en 1917, mais c'est à partir de 1921 qu'on a vraiment reconnu un statut juridique à ce qui était probablement avant des associations de fait.
Alors là, pour être complet, on est complet. Julien Etienne, directeur du Foyer des Orphelins de Liège. Alors déjà, j'ai une petite bonne nouvelle malgré tout, parce qu'on va la confirmer maintenant sur Maximum. D'abord, il y a déjà quelque chose qu'on voulait faire, parce que le Foyer des Orphelins, rue de Joie, c'est quand même un sacré nom pour quand même une action extrêmement difficile. Parce que, mesdames et messieurs, je suis passé là il y a quelques mois, c'est assez glaçant, c'est assez glacial. Je pense que vous feriez peut-être bien d'aller passer 5-10 minutes avec votre schtroumpf par la main pour aller faire un petit tour, pour aller voir ce qui s'y passe. Parce que je vous assure qu'il y a des gens qui bossent dans un cadre pas vraiment facile, et la rue de Joie ne porte vraiment pas ce nom-là. Mais c'est justement le pourquoi. On a fait une démarche avec la Maison Ponsard, parce que je sais qu'il est avec nous, il nous écoute. Arnold Ponsard est là derrière. Mais pourquoi ? Parce qu'officiellement, avec le petit cercle d'entreprise Max 25, on a le plaisir, et même c'est pas grand-chose, de t'offrir un nouveau lave-vaisselle.
Magnifique.
Pour placer là, parce qu'on t'a posé la question, parce que justement, c'est peut-être la bonne question qu'on posait. Vous avez besoin de quoi ? Parce que voilà, le problème, c'est qu'on arrive souvent dans les fêtes de fin d'année, on a le cœur de Noël, on veut faire plaisir, on débarque peut-être avec 42 armoires, mais il en faudrait peut-être qu'une. Alors voilà, donc justement, on est très heureux de t'accueillir avec nous en radio, parce qu'ils font qu'on en parle, il y a des actions à faire, minimes, mais bien ciblées, ça me semble important. Donc voilà, bah écoute, je t'écoute.
Mais on a besoin de quoi ? On a besoin de s'équiper, nous, avant tout. Tu as vu l'état de nos bâtiments, ils ont été rachetés en 1930 par l'association, mais ils existaient bien avant. Alors ça a été rénové au fur et à mesure, avec parfois plus de moyens que d'autres, mais un bâtiment, il faut l'entretenir, surtout quand on a en permanence 30-40 personnes qui y sont. Et donc on a entrepris pour l'instant un cycle de rénovation. On a commencé par les chambres des enfants, ça nous semblait être la priorité. On est en train de rénover le rez-de-chaussée, mais tout ça vient au fur et à mesure. On ne sait pas avoir de plan global, parce que au fur et à mesure où on reçoit des subsides, où on reçoit des moyens, où on reçoit des dons parfois un petit peu plus importants, on les réinvestit systématiquement. Ça, c'est depuis quelques temps maintenant, ça a été le parti pris du pouvoir organisateur, de tout réinvestir systématiquement dans la rénovation du bâtiment. Donc on vient de terminer, on a une nouvelle salle de jeu, un nouveau coin un petit peu plus cocooning avec télévision et divan. On a reçu un coup de main de la part d'IKEA pour repenser les intérieurs, donc aussi bien en matériel qu'en réflexion de décoration, de couleur, parce qu'il nous semble important d'être dans un endroit pour les enfants qui soit le plus sain possible, le plus épuré possible. Alors on reçoit parfois beaucoup de choses et on doit malheureusement à certains moments refuser. C'est vrai que les fêtes de fin d'année, on a reçu beaucoup de dons en jouets, en vêtements. C'est une bonne chose, c'est chouette de voir que les gens s'investissent bâtissent, veulent donner une deuxième vie à leurs objets. Mais nous, on n'a pas toujours la place, donc on oriente vers d'autres partenaires avec lesquels on travaille et qui ont tout autant besoin, évidemment. Et là, pour l'instant, ce dont on a principalement besoin, ben, voilà, le lave-vaisselle, le nôtre, a lâché il y a 2 semaines. Alors oui, les enfants font un peu la vaisselle à la main, mais bon, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus amusant. Ben, c'est une excellente nouvelle, donc vraiment, merci à toi
avec,
et à la maison.
Avec grand
ça.
Plaisir, parce que c'est vrai que je ne suis pas le seul, nous sommes liégeois, donc c'est vrai qu'il y a un certain enthousiasme, sauf qu'il faut le canaliser. Donc le meilleur réflexe c'est quoi? On donne un coup de téléphone, on envoie un mail?
Voilà, la meilleure chose c'est ça, c'est de nous contacter par mail, par téléphone, via notre page Facebook aussi éventuellement, pour voir de quoi avons-nous besoin pour le moment. Donc on a reçu assez bien de vêtements pour l'hiver, on va commencer tout doucement les saisons d'été. Là, je vais faire le point un peu avec la lingère sur de quoi est-ce exactement on a besoin. Et en fonction de ça, nous, on oriente par exemple pour les dons de vêtements. Même chose, alors évidemment, ce dont on a toujours besoin, c'est des moyens financiers, c'est le plus important. Mais ça peut aussi prendre l'aspect matériel. Au niveau mobilier, pour l'instant, on est assez complet. Peut-être des livres. Pour les plus petits, ça en manque un petit peu. Peut-être des jeux de société, mais alors on a des enfants qui aiment bien jouer avec les jeux de société, les stars, hein, les Monopoly, ce genre de choses-là, pour autant qu'ils soient complets. Les puzzles, on n'en prend plus parce que ça, on en a reçu énormément et que de toute façon, malheureusement, ça ne les intéresse pas plus que ça. C'est moins amusant, mais on fait beaucoup de choses par le jeu.
Bien, alors justement, combien d'enfants ?
21. Donc on est agréé par la VIC, qui est qu'on appelait anciennement la WIP, et qui nous permet d'accueillir 21 enfants, et on est à notre seuil maximal d'encadrement. Donc au-delà, soit on manque de personnel, soit on manque de place.
Mais justement, 21 enfants, ça demande quoi comme encadrement?
Alors la particularité des enfants avec lesquels nous travaillons, c'est qu'ils ont tous une problématique en matière de troubles du comportement. Donc, il faut un encadrement supplémentaire, c'est-à-dire qu'on a 22 travailleurs pour 21 enfants. Par travailleur, ce sont principalement des éducateurs qui font un métier absolument formidable parce qu'ils les accompagnent du matin au soir. C'est vraiment eux les premiers liens avec les enfants. On a une pédopsychiatre, une psychologue, une psychomotricienne, un assistant social. Et alors, il y a tout le personnel logistique, une cuisinière, une lingère, des femmes d'ouvrage, pour permettre aux enfants de vivre dans un cadre le plus sain possible, le plus agréable possible.
Alors, on va rentrer dans les détails quotidiens du foyer des orphelins juste après la pause musicale. Ne bougez pas, à tout à l'heure.
C'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça.
Troisième séquence, c'est une bonne nouvelle avec Julien Etienne qui est avec nous, directeur du foyer des orphelins de Liège. Alors, les orphelins, l'initiative, c'était un peu après-guerre. Là, on est en 2020. Comment ça a changé? Comment ça a évolué? Quel était le problème, en fait? Et comment le gérer, surtout?
Alors, par rapport à 1917, et c'est probablement la même chose après la période qui a suivi la grippe espagnole après la Première Guerre et puis après la Seconde Guerre, la problématique a énormément changé. Il n'y a plus d'orphelins de masse, je veux dire, qui n'ont absolument pas de parents, d'oncles, de tantes. Donc, tout ça, maintenant, on préfère largement avoir un support en famille, donc essayer de faire en sorte de trouver soit un membre de la famille proche qui peut encore s'occuper des enfants, soit de développer davantage les familles d'accueil parce que c'est beaucoup plus structurant et parce qu'il y a moins de situations aussi. Restent les structures plus collectives et donc l'étape encore avant un service résidentiel pour jeunes qui est l'agrément dont on dispose, il y a les services résidentiels généraux qu'on appelle aussi ou qu'on appelait avant les petites maisons, là qui accueillent les enfants dans des collectivités. La spécificité au foyer des orphelins, c'est que ces enfants que nous accueillons ont en plus un trouble du comportement ou un trouble de l'attachement qui correspondent à des pathologies psy bien particulières et avec lesquelles nous travaillons.
Qui va décider qui va voir?
Alors la plupart du temps pour le foyer, c'est l'aide à la jeunesse, donc soit le SPJ, soit le SAJ qui nous contacte en nous disant mais voilà, on a une situation, il semble qu'il faudrait une prise en charge thérapeutique et que vous soyez adapté en fonction de ce que les services connaissent de nous. Mais ce sont aussi parfois des parents qui nous contactent directement en nous disant je ne m'en sors plus avec mon enfant, qu'est-ce que je peux faire? Et là, on essaye d'orienter généralement soit pour le SAJ, le SPJ, soit vers un pédopsychiatre, puisque tous les enfants qui sont chez nous ont un diagnostic bien spécifique pour pouvoir être accueillis.
Situation quand même assez dramatique, ça.
Oui, et vraiment, il y a des choses qu'on ne souhaiterait à personne et qui sont peut-être même parfois difficilement imaginables. L'aspect orphelin dans le nom du foyer des orphelins, il en devient quasi minime par rapport à certaines problématiques qu'on peut rencontrer. On a des enfants qui n'ont pas de parents ou dont un des deux parents est soit décédé, soit absent de la situation. On a aussi des enfants dont les parents ont été déchus, donc ils n'ont plus aucun droit, plus aucune autorité parentale, ils ne voient quasiment plus leurs enfants. Et tout ça, évidemment, est difficile à vivre et difficile à porter aussi pour les enfants au quotidien.
Alors justement, quel est le quotidien? Comment ça se passe? La journée des marquants, l'enseignement, comment ça se passe?
Alors on a deux unités de vie, une avec les plus petits, une avec les plus grands, parce qu'on ne travaille pas de la même façon. Les plus grands, ils ont une espèce d'appart à eux, où ils sont plutôt nombreux, avec une cuisine. Ils se lèvent le matin, ils font leur petite toilette du matin, ils se préparent pour aller à l'école. Et là, ils vont tous dans des écoles presque différentes. Donc certains vont dans l'enseignement spécialisé, certains vont dans l'enseignement ordinaire. Ils prennent le bus pour les plus grands. On leur apprend à être autonomes, donc à prendre le bus, à gérer leur abonnement. Après avoir déjeuné, évidemment, ils se rendent à l'école. Ils passent leur journée là. Et puis, fin de journée, ils reviennent. Et comme dans une famille classique, les éducateurs sont là, on prend le goûter en rentrant, on fait les devoirs, on a mis en place une école de devoirs avec toute une équipe de bénévoles qui est bien complète, donc on a de quoi pallier à tous les besoins. Et puis une fois qu'ils ont fini leurs devoirs, un peu d'activité. On a un terrain de sport, donc ceux qui veulent peuvent jouer sur le terrain de sport extérieur. On a des jeux de société, c'est aussi un peu l'occasion de regarder la télé. Certains jours, des éducateurs organisent un atelier cuisine. Donc les enfants qui n'ont pas de devoirs, parce que ça arrive, en tout cas dans l'enseignement spécial, les éducateurs préparent le goûter pour les autres enfants. Voilà, c'est un peu toute cette vie qui fourmille et on essaye de faire en sorte que tout soit au maximum comme à la maison. Donc les enfants, une fois qu'ils ont fini leurs devoirs, qu'ils ont fait leurs petites activités. Certains vont en thérapie, certains ont travaillé avec un club d'escalade, ont travaillé avec un club d'hypothérapie pour leur permettre d'avoir des activités en dehors de nous. Et puis arrive l'heure du souper, brosser les dents, une douche et au lit.
Et alors justement, on arrive en fin de cycle, en fait, quelque part. Tu as eu la chance, en fait, de voir ces jeunes, en fait, intégrer la vie professionnelle. Ça s'est passé comment?
Alors, on a plusieurs types de sorties. Hein. Nous, on essaye de ne pas garder les enfants trop longtemps. L'idée, c'est de leur permettre de réintégrer la famille quand il y en a une. Mais quand il n'y en a pas, il faut bien trouver quelque chose. Alors, au niveau de la vie, il y a plusieurs structures qui existent. Soit ils intègrent des structures, parfois pour personnes handicapées, parce que les pathologies sont plus lourdes. Soit ce qu'on appelle les services de logement supervisés, c'est une espèce de cote, mais où il y a un éducateur qui peut être là pour continuer à aider le jeune à apprendre à vivre en adulte, parce que 18, 19, 20, 21 ans, on n'est pas encore tout à fait mature pour vivre seul. Et alors, on essaye aussi de développer leur futur professionnel. Donc, on a un jeune, par exemple, qui fait pour l'instant des études de menuiserie. Voilà, c'est son projet. Il va continuer dans ce cycle-là et on espère qu'il pourra... On pense sincèrement que c'est tout à fait à sa hauteur qu'il pourra avoir son diplôme de menuisier pour intégrer la vie professionnelle. Tous n'ont pas cette possibilité-là, hein, parce que certains ont parfois un peu plus de limites. Mais c'est important pour nous de faire surtout du sur-mesure, en fait. Que chaque réponse corresponde réellement à un besoin d'un jeune et qu'on ne soit pas dans le traitement de masse.
Bien, bravo. Je crois qu'on peut l'applaudir en studio parce que... Julien Etienne, un exemple. Bravo, félicitations. On a trouvé, on dit toujours, on a trouvé la vaisselle. Il va nous en falloir, enfin, vous en falloir un deuxième.
Il m'en faut un deuxième.
Bon, le premier fait, si vous nous écoutez, je vous ai donné, prenez de quoi noter, l'adresse mail suivante, direction@foyerdesorphelins.be. Envoyez un mail, envoyez une information. Voilà, on vient de réaliser les 50%, on va essayer de trouver les 50 restants. Je suis très content de t'avoir reçu.
Mais un tout grand merci.
Et voilà, donc Maximum est derrière, et pas que notre séquence, on a beaucoup de monde là derrière nous pour faire une communication qui soit positive et qui soit ciblée de manière à ce qu'elle soit, allez, on ait le meilleur rendement possible, tout du moins pour qu'on puisse t'aider. Mesdames et messieurs, je vous laisse. On est déjà, ben oui, on va se diriger tout doucement sur notre fin de séquence. Je vous laisse en compagnie avec Élise Malcher. Elle adore les chansons de Daniel Balavoine et elle est les pâtes carbo. Je ne sais pas si c'est carbonisé ou carbonara, enfin bon, on ne sait pas. Allez, vous souhaite une excellente après-midi. On se retrouve dimanche prochain avec Guy Vanhoenen-Lorguet. C'est promis, à bientôt, au revoir.
C'est bien évidemment les pâtes carbonara, pas les pâtes carbonisées que j'aime bien manger à l'occasion. Merci Christian qui nous présentait sa séquence. C'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça. Dans un instant, un peu de musique avant d'entamer la prochaine partie du mag de ce dimanche. Dans quelques minutes, on vous fera le récap de l'actu de la semaine en province de Liège.